Une heure en France, Denis Farrou, Frédéric Le Tournier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Une heure en France à l'heure d'Halloween. Bonjour Denis Farrou.
Bonjour Frédéric Le Tournier. L'idée c'est donc de jouer à se faire peur pendant une heure.
Oui, ça a l'air de vous faire plaisir en plus. On va commencer avec une sorcière, une vraie sorcière qui officie depuis des décennies. On va découvrir le rôle d'une sorcière au 21e siècle. On va poursuivre avec les lieux maudits de France qui ont fait l'objet d'une enquête. Il y a de la malédiction dans l'air. Et puis on reçoit la brigade d'investigation des endroits chelous et fantomatiques. C'est un docu-fiction qui sort en cette journée d'Halloween.
Vous pouvez le voir sur Internet. Si vous ne faites pas partie de ceux qui souffrent d'électronisme, la difficulté à maîtriser Internet, un Français sur quatre est concerné. Nous recevons le syndicat de la presse sociale ce midi qui travaille sur le sujet.
Et Une heure en France commence avec les infos du jour et Simon de Faucompris.
Bonjour Simon.
Bonjour à tous.
La réunion sur la réforme des retraites a plutôt fait avancer les choses.
Oui, le constat des syndicats de la SNCF, CFDT et UNSA, après une concertation avec le gouvernement ce matin, réunion boycottée par la CGT et Sudrail, mais pour ceux qui ont participé, on va vers du mieux, Raphaël Ebenstein.
Des syndicats plutôt satisfaits à la sortie de leur réunion avec Jean-Paul Delevoye et Jean-Baptiste Djebari. Ils ont obtenu un calendrier très resserré de négociations avec la promesse de propositions qui leur seront faites au plus tard le 22 novembre. L'UNSA, comme la CFDT, sont notamment favorables à la clause dite du grand-père. Le fait que la réforme ne s'applique qu'aux nouveaux embauchés, pas aux cheminots actuels. Sur ce point, aucun engagement de leurs interlocuteurs ce matin. Et l'arbitrage devrait d'ailleurs venir directement de l'Élysée, estime le secrétaire général de la CFDT cheminot, Didier Aubert. Reste que le climat social particulièrement tendu au sein de la SNCF n'arrange pas les affaires de ces syndicats dits réformistes, dont une partie de la base semble prête à une grève illimitée à partir du 5 décembre, aux côtés de Sudrail et de la CGT, organisation qui, elles, ont choisi de boycotter le rendez-vous d'aujourd'hui et la concertation proposée par le gouvernement.
Raphaël Ebenstein, par ailleurs, 8 TGV sur 10 roulent dans l'ouest de la France aujourd'hui, c'est mieux qu'hier, mais la grève des agents de maintenance au technicentre de Châtillon continue. Plusieurs dizaines d'autres employés SNCF viennent de lancer des débrayages dans deux autres technicentres, l'un qui s'occupe de l'axe nord du pays, l'autre du sud-est. La direction affirme que ces actions n'ont pas causé de problème de trafic pour le moment. On précise aussi que ça va mieux à la gare d'Orléans. La machine est repartie il y a un quart d'heure. Le trafic était carrément bloqué ce matin à cause d'une panne.
Eh bien, c'est très complet. La journée va être compliquée aussi sur la route. Forcément, c'est le week-end rallongé pour la Toussaint. Les départs de ce jeudi sont classés orange par Bison Futé et rouge en Île-de-France.
Vous l'avez dit, c'est complet. Des prévisions trafic détaillées vous attendent sur francebleu.fr. La fusion entre PSA et Fiat Chrysler est une bonne nouvelle pour l'industrie française. La conviction du ministre de l'économie Bruno Le Maire ce matin, le mariage des deux constructeurs automobiles a été officialisé. Nicolas Wilhelm, vous nous livrez le détail de ce mariage annoncé comme heureux et équitable.
Ce serait une fusion à 50-50. Ça veut dire que les actionnaires des deux groupes détiendraient respectivement 50% du capital et partageraient donc à part égale les fruits de ce rapprochement, précise un communiqué commun. Le conseil d'administration serait composé de 11 membres, 5 nommés par Fiat, 5 par PSA, présidé par un 11e homme. Ce mariage entre les deux géants de l'automobile se ferait sans fermeture d'usine. Son siège serait basé aux Pays-Bas et c'est l'actuel patron de PSA, Carlos Tavares, qui deviendrait directeur général. Les deux constructeurs automobiles parlent d'un accord conclu à l'unanimité. Ce nouveau groupe deviendrait le quatrième constructeur mondial avec 8,7 millions de véhicules produits chaque année, vendus sous 11 marques différentes.
L'État français, actionnaire de la société PSA, a rajouté qu'il resterait très vigilant quant à la suite des négociations. La Seine-Saint-Denis subit des difficultés hors normes. Les mots du Premier ministre Édouard Philippe, qui a commencé à présenter il y a une demi-heure 23 mesures de soutien au département d'Île-de-France. Elles doivent aider les fonctionnaires, les policiers et aussi donner plus de moyens à la justice et à l'enseignement. 186 communes françaises reconnues en état de catastrophe naturelle, annonce du journal officiel ce matin, après les violentes intempéries qui ont touché l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et la région PACA la semaine dernière.
Oui, cette reconnaissance arrive donc rapidement. Ça va permettre de débloquer des fonds exceptionnels pour indemniser les sinistrés.
Le numérique, c'est pas automatique. On est 1 sur 6 à ne pas maîtriser du tout tout en France, les nouvelles technologies, selon une enquête de l'INSEE. On appelle ça l'électronisme. En clair, ne jamais aller sur Internet, faute de matériel ou de compétences.
Oui, alors que dans certaines situations, c'est Internet ou rien, pour des démarches administratives par exemple. On reçoit dans un instant le syndicat de la presse sociale qui s'engage contre cette nouvelle forme de fracture sociale.
Vous avez fait le stock de friandises, Denis ?
Mais bien sûr.
C'est un peu l'immanquable de cette journée d'Halloween, avec les costumes de monstres, toutes ces traditions, petit point culture, qui ne viennent pas des États-Unis comme on le croit souvent, mais des Celtes d'Irlande.
Oui, dont on a parlé hier dans Une heure en France.
Absolument. Il y a 3000 ans déjà, ces Celtes se déguisaient le 31 octobre au soir pour faire peur aux fantômes.
Est-ce que vous voulez la tonalité de l'émission du jour, Simon ?
Faites-moi peur, Denis. C'est vous ?
Moyennement peur, donc.
Oui, bof. En attendant, on vous a préparé un quiz pour vous tester sur les génériques et musique d'horreur. Il est sur francebleu.fr, bien sûr. Attention, il y a des petits pièges. 7 sur 10 pour ma part.
6 sur 10 pour moi.
C'est pas mal, on s'en est bien sorti. Une pensée pour Jérémy Chardy qui bataille en 8e de finale au tournoi de tennis de Paris-Bercy. Premier set gagné, deuxième perdu. Il gagne 4-3 dans le 3e contre le Chilien Christian Garin. Les tricolores Tsonga et mon fils jouent eux aussi une place en quart dans la journée. La météo, digne d'Halloween. L'ambiance un peu lugubre sera au rendez-vous partout cet après-midi et ce soir, sauf sur la côte aquitaine qui voit poindre quelques rayons. Le reste, c'est du gris et de la pluie, notamment soutenue dans le golfe du Lion.
C'est presque de la poésie, votre météo. 9 degrés à Montbéliard et à Dunkerque cet après-midi, 14 à Lyon, où une armoire a longtemps parlé près de la capitale des Gaules, écoutez bien tout à l'heure. 15 à Sisteron, 17 à Angoulême, 20 à Perpignan. Merci Simon de Fourcompré.
Une armoire qui parle.
On parle d'Internet dans une minute, ceux qui maîtrisent et ceux qui ne maîtrisent pas.
Merci.
FranceBleu.fr. À écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr. France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel. Manon Vautier-Cholet.
Et le point sur les routes de la région parisienne avec cet accident à vous signaler sur la Nationale 2 en direction de Paris à hauteur de Mitry-Mory. 3 camions sont impliqués, vous êtes ralentis pendant une dizaine de minutes. À vous signaler aussi ce ralentissement sur l'A86 entre Gennevilliers et Nanterre dans les deux sens de circulation. Comptez là une vingtaine de minutes de route et ça reste chargé également au sud de la capitale sur l'A6. Ça coince particulièrement dans le sens Provence-Paris, habituellement depuis Vissou jusqu'aux portes d'Orléans et d'Italie. Et du côté des transports, la ligne P du Transilien est toujours perturbée après une panne sur l'un des trains.
Comment faire une démarche administrative, acheter un billet de train ou s'inscrire à Pôle emploi quand on ne maîtrise pas Internet comme 17% de la population selon la dernière enquête de l'INSEE. Le syndicat de la presse sociale a écrit un livre blanc sur le sujet cette année et c'est son président qui est avec nous. Bonjour Philippe Marchal.
Bonjour.
On parle d'Internet comme si tout le monde y avait accès et naviguait sans problème. C'est loin, très loin d'être le cas.
Malheureusement, c'est pas du tout le cas. Même les sondages qui ont pu être faits, effectivement, on annonce aujourd'hui 17%. L'INSEE, nous avions nous-mêmes fait faire un sondage il y a quelques temps et on était arrivé à pratiquement 23% de personnes qui se déclarent en difficulté, en tout cas mal à l'aise avec le numérique.
Alors,
c'est quand même un problème gravissime.
Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Les personnes âgées ont plus de problèmes que les jeunes qui sont nés avec Internet, mais des jeunes qui naviguent très facilement sur les réseaux sociaux ont parfois du mal à remplir un simple formulaire administratif.
Ça a été une des grandes surprises aussi de ce sondage, de cette étude, parce que on imagine effectivement que les natives digitales sont parfaitement à l'aise avec le numérique. En fait, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait vrai. Alors, ils sont parfaitement à l'aise avec les réseaux sociaux, avec un certain nombre de logiciels relativement simples. Mais dès qu'il s'agit de faire une recherche un peu plus approfondie ou de faire une enquête sur un sujet plus particulier, notamment dans le cadre de leurs études, on s'aperçoit qu'ils sont parfois très démunis. Oui. Alors bien entendu, les personnes âgées sont plus touchées, ça, oui. on doutait, on le savait. Mais ce qui nous a frappé dans cette étude, c'est quand même que ça touchait pratiquement toutes les couches de la société. Les hommes comme les femmes, les gens qui sont en milieu urbain comme ceux qui sont en milieu rural, les gens qui ont fait des études curieusement comme ceux qui en ont fait beaucoup moins. Alors bien entendu, les proportions ne sont pas rigoureusement les mêmes dans chaque catégorie, mais ça touche quand même tout le monde. Et ça, c'est quand même dramatique.
On fait quoi? On fait quoi dans ces cas-là? Comment on se forme? Alors, avec qui? Parce que souvent, on n'a plus le choix. C'est Internet ou rien pour s'inscrire quelque part.
Bah, c'est effectivement la perspective que nous avons. C'est 2022. C'est pratiquement la totalité des services publics ne seront utilisables que à travers le numérique. Donc, ça veut dire que 23% des gens vont se sentir mal à l'aise avec des services auxquels, en tant que citoyens, ils auraient droit tout naturellement. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, bien sûr, former, c'est très bien. Mais quand il y a 11 millions de personnes à former, ça va prendre beaucoup de temps. On ne peut pas former tout le monde instantanément. Et nous, on a orienté quand même notre réflexion sur mais est-ce que les sites sont toujours aussi bien faits qu'ils devraient l'être? Et en fait, on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas du tout aussi bien faits qu'ils devraient l'être.
Oui.
Il y a beaucoup de choses trappes, beaucoup de pièges et beaucoup d'imprécisions dans le cheminement sur des sites, y compris des sites de services publics. Alors, je ne parle même pas des sites marchands, mais sur les sites publics, c'est pas concevable. Quoi.
Ouais. C'est bien de souligner, parce que parfois on pense que ça vient de nous, mais pas forcément. Il y a des sites qui sont pas très bien faits, qui sont pas logiques en tout cas. Comment dire, ce n'est pas pour nous rassurer, mais ce n'est pas un problème français. On est un peu dans la moyenne européenne pour l'électronisme, comme on dit savamment.
Oui, bien sûr. Alors le mot n'est pas très joli, mais en tout cas il veut quand même bien dire ce que ça veut dire. Et c'est vrai qu'on se dit qu'il y a quand même des solutions à apporter dans la conception même des sites. C'est-à-dire qu'il faut que les concepteurs de sites, même si parfois il y a des ingénieurs extrêmement brillants qui sont capables de monter des technologies subtiles, mais il manque quand même le souci de l'usager. Et parfois, c'est vraiment le grand oublié, alors que ça devrait être lui en première ligne pour être sûr que tout le monde est capable de bien comprendre un site et ses différents cheminements et son arborescence. C'est pas toujours le cas.
C'est même parfois
très loin d'être le cas.
Philippe Marchal, président du syndicat de la presse sociale, qui rassemble des éditeurs de mutuelles, de syndicats, coopératives ou associations. Oui. Merci d'avoir été quelques minutes avec nous ce midi. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci. Merci beaucoup. Au revoir.
Une heure en France. Denis Farou, Frédéric Le Tournier.
Excusez-moi, c'est Halloween aujourd'hui. Voilà pourquoi, avec l'équipe, on a décidé de vous concocter une émission spéciale pour jouer à se faire peur. Et on commence, accrochez-vous, avec la rencontre d'une véritable sorcière luciférienne. Elle exerce depuis plus de 40 ans à Paris.
Une sorcière en vrai.
Une vraie sorcière, tout à fait.
Une vraie sorcière.
Une vraie sorcière. Ensuite, on va faire un tour des lieux maudits en France avec un livre d'enquête palpitante.
Vous avez lu celle de l'armoire qui parle?
Bien sûr.
Qui se fait entendre, du moins. Personne n'a percé le mystère près de Lyon.
Et puis on va terminer avec la brigade d'investigation des endroits chelous et fantomatiques. Un docu de réalité fiction à suivre en podcast et des épisodes qui font vraiment froid dans le dos.
Le docu sort aujourd'hui pour Halloween. Si avec tout ça vous n'avez pas peur, on ne peut plus rien pour vous.
Allez, on respire à fond, on est parti pour une heure d'horreur sur France Bleu. Une petite bise avant de commencer cette spéciale Halloween. Kiss. Il fallait bien ça. C'était Kiss avec Prince sur France Bleu.
Une heure en France. Frédéric Le Ternier, Denis Farou sur France Bleu.
Ambiance Halloween, hein. On va avoir peur tout au long de cette émission. Et c'est justement Halloween qui nous a mis sur la piste d'une sorcière, mais on ne pensait pas en trouver vraiment une. Disons une vraie sorcière qui fait de la sorcellerie. Et puis Hécate, sorcière, a surgi sur notre chemin.
Parce que la vie n'est pas qu'une vallée de larmes, il existe des solutions, dit Hécate sorcière.
Bonjour Hécate, bienvenue.
Bonjour, soyez la bienvenue.
Une sorcière, a priori, ça fait peur. On la voit dans des livres, on la voit au cinéma. Qu'est-ce qu'une sorcière en chair et en os fait au XXIe siècle au quotidien?
Eh bien, elle fait ce que faisait la sorcière dans des époques très reculées. Elle écoute les gens, elle essaie de les aider avec ses moyens à elle, étant bien posé que nous n'avons plus à notre disposition les potions magiques et autres qui étaient utilisées à l'époque, car c'était interdit. Mais sa vocation principale, je crois que c'est d'aider les personnes en difficulté.
Et comment est-ce qu'on devient sorcière, Hécate? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe de mère en fille? Est-ce qu'on le sent en soi dès son plus jeune âge?
Ça peut se transmettre, comme vous dites, par les femmes, effectivement, de mère en fille, ou ça peut, comme moi j'ai fait, ça peut s'apprendre par des maîtres, avec la rencontre de différents maîtres ou d'un seul maître. Mais c'est un parcours du combattant, et moi, ce parcours-là m'a pris 10 années.
De formation, on pourrait dire.
De formation.
On est curieux de savoir qui vient vous voir et pour faire quelle demande.
Alors écoutez, j'ai un panel de clientèle assez varié. Je dirais en majorité des femmes. Les hommes étant principalement des hommes d'affaires. Des personnes entre deux âges. Je n'aime pas trop recevoir des jeunes gens qui n'ont pas une certaine expérience de la vie et qui pourraient prendre mon art pour une plaisanterie ou voilà. Les demandes, elles peuvent être positives ou négatives, hein. Les demandes positives sont souvent les retours amoureux. Une augmentation de clientèle pour des gens d'affaires, aider à monter une entreprise ou inversement, se venger de quelqu'un, voire lui donner la mort.
Est-ce que vous avez des demandes bizarres parfois qui sortent du cadre?
Bah lui donner la mort déjà.
Oui, c'est vrai.
À commencer par ça, oui. Les demandes de mort ne sont quand même pas très très courantes, mais elles existent et elles sont beaucoup plus nombreuses que lorsque j'ai commencé il y a 35 ans.
Alors c'est peut-être de l'ordre du secret professionnel, mais est-ce que vous refusez ce type de demande?
Oui. C'est-à-dire que je ne refuse pas catégoriquement. J'essaie de faire parler la personne pour comprendre ses motivations. Ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 2 heures. Et il est bien rare qu'au bout d'une heure ou de 2 heures, la personne persiste dans sa demande. Parce que je lui fais prendre conscience qu'il y a d'autres solutions.
Et comment, techniquement, ça se réalise? C'est-à-dire, vous jetez des sorts, il y a des potions, des préparations?
Ouh là là, vous rentrez à l'intérieur.
Potions, non. Potions, non, parce que, Dieu merci, la médecine l'interdit aujourd'hui et je me garderais bien de faire boire ou manger quoi que ce soit à mes consultants, parce que, bon, de toute façon, je ne m'y connais pas. Hein. Ça se passe par des rituels qui s'effectuent la nuit, tout simplement, des rituels qui ont été préétablis par la longue chaîne des initiés, et voilà, et on applique ces rituels toutes les nuits, pratiquement.
Vous n'avez pas de potion magique, ça c'était il y a bien longtemps.
Non.
On n'imagine pas que vous ayez un bureau comme le nôtre, avec juste un ordinateur. Vous avez un peu de matériel pour travailler?
Oui, j'ai un bureau, un décor absolument hétéroclite, où se côtoient déjà des objets d'art, qui peuvent être le judaïsme, l'Afrique, etc. J'ai des petites sorcières, pas d'ordinateur, pas de téléphone portable dans mon bureau, absolument pas.
Alors, en vous écoutant quand même, Ekat, on peut se demander, mais si quelqu'un me jette un sort par le biais d'une sorcière, est-ce que, tout le monde est perméable à recevoir un sort? Ou si on fait le bien, on va pas le recevoir quand même, malgré tout?
Non, vous avez des gens, il n'y en a pas beaucoup, mais 20% à peu près, des gens qui ne sont pas du tout réceptifs à nos pratiques.
D'accord.
Du tout. Pour 36 000 raisons, hein, parce qu'ils sont nés comme ça, parce que voilà. Et ne croyez pas que ce soit une question de croyance, parce qu'il y a des gens qui ne croient en rien, chez qui les travaux occultes passent très bien, et inversement.
Si ceux qui nous rejoignent se demandent peut-être qui nous avons au bout du fil, nous avons une sorcière, une vraie sorcière. Pardon pour ma question, mais est-ce que la période d'Halloween est une plus grosse période pour vous?
La nuit, je pratique mes rituels comme la plupart des nuits, mais c'est une nuit particulière où l'on dit que le monde des décédés et le monde des vivants s'interpénètrent. Il n'y a plus de frontières.
Vous pratiquez.
Qui vous explique les squelettes, etc., dans l'imagerie populaire.
Vous pratiquez la nuit, vous consultez la journée, vous dormez quand?
Oui, non, mais soyons plus concis que ça. Non, je reçois très peu de gens, je reçois à peu près 3-4 personnes par semaine. Je ne prends pas tout le monde parce qu'il y a des travaux qui ne sont pas faisables. Et je travaille toutes les nuits, mais attention, 3 ou 4 heures par nuit.
Ah bon?
D'accord.
Et je vous rassure, j'ai aussi des nuits de sommeil bien
nécessaires.
Bien nécessaires, il n'y a pas de problème. Non, je ne suis pas esclave de ce que je fais, je fais simplement ce que j'ai à faire. Voilà.
Et Kat, est-ce que parfois vous vous êtes vous-même fait peur que votre pouvoir était trop grand?
Vous savez, je n'ai pas de pouvoir. Ça, je m'insurge contre ce terme-là, ce n'est pas contre vous. Je n'ai pas de pouvoir. Je dispose d'un savoir que mes maîtres m'ont enseigné avec une certaine éthique. Hein, on n'a pas le droit de tout faire, voilà. Donc, je n'ai pas de pouvoir. J'ai un savoir. Et croyez-moi, il est utilisé à bon escient et pas sur n'importe qui.
Et on le sent dans vos propos qu'il y a beaucoup de respect autour de votre pratique.
Ah oui.
Et merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants, cette journée d'Halloween.
C'est moi qui vous remercie infiniment et joyeux Halloween.
Merci Ekat.
Nous recevions Ekat, une sorcière en activité en cette journée d'Halloween.
Et on a appris énormément de choses. Merci encore, bonne journée, à bientôt.
Je vous remercie également, merci infiniment.
Et nous jouons ensemble pour une compile France Bleu des talents France Bleu 2019 qui vous attend. J'ai une question, mais alors tellement facile, j'ose à peine la poser, mais j'avais vraiment envie de vous offrir ce talent.
Ne la posez pas.
Si, je vais le faire quand même. Quel légume est associé à Halloween? Allez, j'en dis pas plus. 0810 055 056. On joue à se faire peur aujourd'hui dans Une Heure en France.
How can I keep on smiling at their disguise when I know nothing good ever comes from lies? My heart is no beginner, but still I can lose my temper. Fucking TV. We're so bored, we don't even care what we see. Takes our strength away and never shows us the way. No. It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery. How can the banks of a sitting on her bed,
thinks life is water. And love, love is a river. It's only mystery.
Les mystères d'Halloween. It's Only Mystery. Arthur Sims sur France Bleu. C'est la bande originale du film Subway de Luc Besson. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Denis. Excellent film.
Eh bien, celui-là, je l'ai vu. Voyez-vous.
Oh, je n'y crois pas. On accueille Aurélie pour jouer avec nous. Bonjour, bienvenue Aurélie.
Bonjour.
Vous êtes dans la Somme, Aurélie.
Tout à fait.
Très bien. Où ça dans la Somme?
Sur l'est de la Somme, pas très loin de Péronne.
Très bien. Et du coup, vous allez fêter Halloween ou pas du tout?
Ah ben, j'ai une petite sorcière à la maison, Marion, elle est déguisée en petite sorcière, et puis ben, bon, j'ai un bébé aussi, mais lui, il est un peu petit pour l'instant.
Oui, ça le dépasse un petit peu encore, là.
Tout à fait.
Elle a quel âge, la petite sorcière?
Elle a 5 ans.
Ah, elle a peut-être pas entendu, elle a peut-être entendu la vraie sorcière qui était à l'antenne, là, il y a quelques minutes.
Oui, bah l'écouter, oui.
Ah bon.
Avec son frère.
Bon, ça va, ça lui fait pas trop peur.
Non.
Moi, j'ai eu un peu peur, je vous avoue, Aurélie. On jouait pour la compile des talents France Bleu 2019. Dites-nous, quel légume est associé à Halloween?
La citrouille.
Mais oui, la citrouille. C'est joli hein, quand on met des bougies dedans, comme ça, quand on arrive à bien les découper.
Ça fait un peu peur.
Ça fait un peu peur aussi. Aurélie, on vous envoie la compile des talents France Bleu et on embrasse votre petite sorcière et vous-même.
Ah ben, merci beaucoup.
À bientôt. Bon Halloween, Aurélie. Bonne journée.
Merci de même.
Au revoir.
France Bleu et le magazine Régal vous invitent à de beaux voyages culinaires à travers les régions françaises. Vous êtes en quête de goût et vous aimez cuisiner? Retrouvez dans Régal des recettes gourmandes et accessibles, inspirées des produits de saison. Et ce mois-ci dans Régal, les fêtes à Lyon entre tradition et innovation, à la table de Bocuse et des grands chefs qui entretiennent la légende. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu.
France Bleu vous emmène en mer avec les skippers de la Transat Jacques Vabre. Les équipages ont pris la mer et le suspense a commencé. Avec France Bleu, plongez au cœur de la course entre Le Havre et Salvador de Bahia au Brésil. Pour suivre au plus près l'actu de la Transat Jacques Vabre, rendez-vous sur francebleu.fr.
Un message d'Agathe Le Caron.
Quand on est maman et qu'on anime la maison des maternelles, forcément, on a envie de se mobiliser et de protéger les générations futures. Moi, Agathe, je recycle. J'ai commencé avec les produits de première nécessité, comme mon frigo. On ne réalise pas que notre vieux frigo contient des gaz qui ont 10 000 fois plus d'impact sur le climat que le CO2. Alors autant le dépolluer en France. Aucune excuse acceptée. Maintenant, c'est à vous d'agir. Plus d'informations sur écosystème.eco.
Écosystème, recycler, c'est protéger.
FranceBleu.fr. Toute la musique de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.
France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel. Manon Vautier-Cholet.
Et le point sur les routes de la région parisienne avec cet accident, toujours à vous signaler sur la Nationale 2 en direction de Paris. Il se passe à hauteur de Mitry-Mory. 3 camions sont impliqués, vous êtes ralenti pendant un quart d'heure. À vous signaler aussi ce ralentissement, toujours sur la 86 entre Gennevilliers et Nanterre, dans les deux sens de circulation. Comptez une vingtaine de minutes de route. Dans Paris, ne soyez pas étonnés devant la Gare de l'Est, un tournage tournage de film est en cours. Vous pourrez y apercevoir des blindés d'époque en Formica. Et puis justement, du côté des transports en commun, la ligne P du Transilien est perturbée après une panne en cours sur l'un des trains.
Vous allez vous déguiser en quoi ce soir, Denis ? Vous avez trouvé votre tenue déjà ? Un zombie ? Un loup-garou ? Une momie ?
Et si je restais moi-même ?
Oh non, vous faites pas si peur. Nous, on joue à se faire peur, en tout cas dans une heure en France, jusqu'à 14h. Et après avoir échangé avec une vraie sorcière, on va parler des lieux maudits en France.
On va parler de l'armoire qui parle près de Lyon.
Elle fait peur, celle-ci. Et puis, en toute fin d'émission, on va rencontrer une brigade d'investigation des endroits chelous et fantomatiques. Rejoignez-nous.
Des chansons, des filles, beaucoup de verres et de nuit. Telles étaient nos heures, telles étaient nos vies. Fut-il adolescent, tout nous était permis. Roi de pacotille, prince démuni. On n'est riche que de ses amis, c'est dit. Des tempêtes arrivent avant qu'on les prédit. Amour impossible, défaite, ironie. Quand tout s'abîme, quand même nos rêves fuient. Il ne reste qu'une île, un port, un parti. On n'est riche que de ses amis, c'est dit.
Calogero.
Non, mais c'est
sur
dit.
France. Oui, mais c'est dit, en fait, c'est dit.
Une heure en France. Denis Farrot, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Peur. C'est une spéciale Halloween du Nord en France et nous recevons maintenant celui qui s'est intéressé aux lieux maudits en France.
Phénomène inexpliqué, malédiction,
peut-être,
adresse maudite,
ça arrive.
La France ne manque pas de lieux qui glacent le sang.
Il a mené l'enquête et vient de sortir aux éditions de L'Opportun, La France des lieux maudits. Il est avec nous dans Une Heure en France. Bonjour David Gallet.
Bonjour Frédéric, bonjour Denis.
Alors dites-nous, est-ce qu'on ressent tous quelque chose dans des lieux qu'on découvre pour la première fois, une sensation de bien-être ou de mal-être ?
Bah, généralement, c'est plutôt le... Alors, bien-être, oui, ça peut arriver, mais c'est plutôt le mal-être. C'est-à-dire, il y a des endroits, effectivement, on rentre dans un appartement, dans une maison, puis bizarrement, on se sent pas bien. Voilà, il y a des lieux qui sembleraient générer des énergies un peu bizarres, comme ça, un peu néfastes, puis d'autres plutôt positives. Il y a même des lieux qui portent bonheur, ou dont on croit qu'ils portent bonheur. Par exemple, vous avez des fontaines, vous allez jeter de l'argent, ou des pièces, en tout cas, pour pouvoir avoir un peu de bonheur, ou mettre un cadenas sur un pont pour pouvoir avoir une histoire d'amour qui dure. Et puis, bah, évidemment, mais il y a le sens inverse des choses. Il y a des lieux qui vraiment portent la poisse parce qu'il y a eu toute une série de choses catastrophiques qui sont arrivées. Ou alors, vraiment, des lieux où se sont déroulés des phénomènes vraiment, encore aujourd'hui, d'ailleurs, inexpliqués. C'est ce que je raconte d'ailleurs dans mon bouquin.
À ce propos, moi, j'adore l'armoire bruyante. L'armoire qui donne des coups, comme si elle frappait à la porte, toc-toc, dans la banlieue lyonnaise, à Genasse. Tous ceux qui ont enquêté n'ont pas trouvé d'explication.
Il n'y a pas d'explication encore. Bon, le phénomène date un petit peu, hein. Je crois que c'est du début du siècle dernier, donc début 20e. Et effectivement, il y a quelque chose d'intrigant dans cette histoire. Il y a une famille qui va avoir une armoire qui parle, comme ils disent d'ailleurs à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, cette armoire, elle va frapper des coups. Elle répond en gros aux questions. Alors, c'est assez étonnant. Évidemment, on va fouiller dans l'armoire. On va regarder si c'est pas un truc, une astuce, quelque chose qui craque comme ça. On va dire que c'est le hasard. Mais en fait, c'est pas du tout le hasard. Et vraiment, pour eux, c'est une sorte d'armoire maudite. Alors ça s'appellerait aujourd'hui un phénomène de poltergeist, c'est-à-dire des phénomènes de coups frappés, comme ça, de manière assez inexpliquée. Et il y en a plein, en fait, dans les archives.
Mais comment vous avez répertorié les lieux que vous avez décidé de traiter ?
Bah, tout ce qui est maudit, c'était en fait, j'avais déjà fait un grand tour de France pour un bouquin qui s'appelle La France mystérieuse. Et puis bah du coup j'ai répertorié un petit peu tous les lieux qu'on disait maudits. Par exemple le moulin de Perbet, ça c'est du côté de l'Auvergne, où là on racontait effectivement des histoires assez extraordinaires, mais très documentées parce que du coup la presse de l'époque s'est intéressée à ça. Ou alors des adresses très très parisiennes. Hein. On a des choses qui sont
l'avenue Frochot. Moi ça m'a terrifié cette histoire.
Ah oui, la maison est l'une des plus hantées. Soi-disant de Paris, effectivement, c'est une des plus bourgeoises aussi d'ailleurs de la capitale, mais il se passerait effectivement des choses assez intrigantes, et notamment des morts suspectes, des gens qui vont acheter la maison et qui vont tous mourir de la même maladie. Alors ça, c'est quand même assez intriguant. Il y a d'autres cas, par exemple, là, je sais que TF1 va faire une série sur le bazar de la charité, c'est-à-dire quelque chose qui s'est déroulé à Paris en 1907, je crois, si je me trompe, peut-être.
Un incendie.
En tout cas, un incendie exactement qui a tué quand même une centaine de personnes, dont de nombreuses femmes, des bourgeoises ou des nobles de l'époque. C'était catastrophique et aujourd'hui il y a une chapelle qui s'appelle la chapelle Notre-Dame de Consolation et des gens qui passent devant ou qui rentrent dans cette chapelle entendent quelquefois des cris, et notamment des cris de femmes. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais voilà, ça fait partie de ces lieux qu'on dit un peu maudits parce qu'il s'est passé quelque chose de terrible.
Alors je veux pas casser l'ambiance, mais il y a quand même des lieux maudits qui ne le sont plus parce qu'on a trouvé une explication rationnelle. Je pense à ces respiration que l'on entendait dans une église normande. On a mis ça sur le dos des chouettes. C'est peut-être des chouettes qui étaient...
Ouais, mais peut-être pas.
Peut-être pas.
C'est d'ailleurs, c'est très impressionnant d'ailleurs, hein, parce que pour avoir assisté à ce genre de phénomène, vous entendez des pas, parce que les chouettes, quand elles marchent, elles font des pas très puissants quelque part. Ça peut paraître bizarre, mais en tout cas, c'est le cas. Et vous entendez une respiration qui, quelquefois, je me souviens dans un petit village où toute la population était réunie à minuit pile. Avant, on n'entendait strictement rien. Et à minuit pile, eh ben, on commençait à entendre une respiration très forte qui faisait une respiration un petit peu humaine de quelqu'un d'assez âgé, on va dire. Et c'était, voilà, c'était très porteur parce que évidemment, la chouette s'était glissée dans le clocher à un endroit qui résonnait très fort. Quoi.
David Gallet, est-ce que vous avez eu peur pendant la rédaction de ce livre ?
Non, pas du tout. En plus, j'écris le soir, de nuit, tout seul, donc j'ai pas trop de soucis avec ça.
Vous n'êtes pas impressionnable.
Non, parce que je me dis toujours que les fantômes n'ont jamais tué personne, contrairement aux humains, et que je me sens plus en sécurité tout seul avec des fantômes, même si j'ai déjà entendu des bruits bizarres, entendu des portes qui claquaient, alors qu'il n'y avait aucune raison. C'est-à-dire, vraiment, vous êtes tout seul dans une pièce et la porte se met à claquer alors qu'il n'y a pas une seule fenêtre d'ouverte. Ça peut paraître bizarre. Alors, évidemment, sur le coup, j'admets que je fais moins le fier. Mais voilà, je me suis juste enfui une fois d'un château dit hanté et je pense qu'il l'est
vraiment.
Ah, quand
même.
mais je suis pas le seul. Hein. Il y a pas mal de journalistes qui sont allés sur place et qui vraiment se sont réfugiés dans une pièce ou alors elles se sont enfuies d'ailleurs.
Mais ça vient, il y en a d'autres qui ont traité. Ça vient de chez vous, ce bruit là qu'on entend au téléphone?
Il a 8 ans, hein, là, Denis Farou, il a 8 ans. En tout cas, je peux vous dire que moi, j'ai eu peur en lisant votre livre. J'étais dans un train, il y avait plein de monde, mais j'ai eu peur quand même. J'avais peur de rentrer chez moi, d'entendre des choses. Après, ça s'appelle La France des lieux maudits. Je vous recommande vraiment de le lire. C'est la période. En plus, Halloween, on a envie de jouer à se faire peur. Il y a des histoires incroyables, notamment aussi d'un pub hanté à Bordeaux, beaucoup d'adresses à Paris, des châteaux en Normandie. On fait le tour de France des lieux maudits.
Une adresse bizarre à Grenoble aussi.
Aussi, oui. Merci beaucoup de nous en avoir parlé aujourd'hui, David Gallet.
Merci à vous.
Très bon Halloween, surtout.
Ah bah, je vais le fêter comme il se doit. Merci beaucoup.
Dignement. Merci, David Gallet. À bientôt. Au revoir. C'est paru aux éditions de L'Opportun, ce livre. Hein. Allez-y, vous pouvez vous le procurer. 30 enquêtes palpitantes. On joue ensemble pour une clé USB France Bleu. Dites-nous dans quelle ville où s'est rendu David Gallet se trouve un pub hanté. J'espère que vous avez été bien attentifs. Je l'ai cité. Allez, je vous aide. C'est là où il y a la Cité du Vin aussi. Vous nous appelez au 0810 055 056. Et je ne sais pas, vous n'avez pas entendu quelque chose là, Denis, à nouveau?
Je crois que c'était chez David Gallet, non?
Vous pensez? En tout cas, ça l'a bien fait rire. C'est une chanson, c'est Florent Pagny. On va reprendre nos esprits hein, parce que c'est vrai que ça commence à être angoissant cette émission.
Vous en rajoutez, vous
si,
aimez
si,
bien
c'est
vous
angoissant.
Faire peur.
Bon, on continue hein, les lieux maudits en France avec cette fois-ci un podcast qui voit le jour. Aujourd'hui, c'est sur une plateforme de podcast, on vous raconte.
Si une chanson a le pouvoir de faire oublier une seconde la douleur, si une chanson a le pouvoir de faire communier tout le monde en douceur, alors il faut chanter. Alors il faut chanter. Si une chanson tombée du ciel, sortie d'une malle ou d'une armoire peut aider, si cette chanson est de celles qui peuvent ramener l'espoir et la paix, alors il faut chanter. Alors il faut chanter, chanter de toutes ses forces, chanter de tout son cœur, être le rire qu'on a volé et l'insouciance enfuie, être le jour qui est tombé. La peine, une chanson peut se présenter au parloir. Si sans appeler à la haine, elle sait allumer une flamme dans le noir, alors il faut chanter. Alors il faut chanter.
Alors il faut chanter.
dernier titre de Florent Pagny, si on chantait pour se donner du courage, pourquoi pas, parce qu'on espère vraiment que vous avez peur pour cette spéciale Halloween dans une heure en France. Et nous rencontrons Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Vous nous appelez du Finistère, Stéphane.
Je suis en route vers le Finistère.
Oui, une terre où il y a quand même beaucoup de légendes, de croyances et de mystères.
C'est ça.
Vous avez...
La terre de légendes, d'ailleurs.
Le Finistère, là où finit la terre.
Ah, le bout du monde.
Ouais.
Stéphane, vous allez fêter Halloween ce soir ?
Ouais, je... Pas vraiment, non, pas vraiment, mais...
Pas sûr.
J'attends les enfants.
Mais vous... Bonbons. Vous aimez vous faire peur, regarder des films d'horreur ou lire des livres
J'aime bien.
Ouais.
Ah ouais.
J'aime assez. Ouais.
Et c'est quoi votre plus grosse frayeur devant un film ? Tiens, le film qui vous a fait le plus peur ?
Shining, ça.
Oh là là.
L'Exorciste, c'est pas mal aussi quand même.
C'est déjà un peu plus vieux, mais c'est pas mal.
Bon, je vous remercie de le souligner, Stéphane. C'est une indication sur mon âge, donc.
Non, parce que je dois pas être loin non plus.
On n'était pas nés, Stéphane.
C'est ça, moi j'étais né.
Stéphane, on joue du coup pour une clé USB France Bleu. Je vous demandais dans quelle ville où s'est rendu David Gallet qui a écrit La France des lieux maudits aux éditions de L'Opportun. Il a trouvé un pub hanté. Est-ce que c'est Bordeaux ou Perpignan ?
C'est à Bordeaux.
Mais oui ! Et alors je peux vous le dire, c'est incroyable en lisant. Dans la cave, il se passe des choses. Je vous laisse découvrir, mais ça fait très peur.
C'est très intéressant ce livre, je pense.
Ah ouais. Moi, j'ai eu très peur, hein, Stéphane. Si vous aimez vous faire peur, franchement, achetez-le, il est super.
Déjà, la couverture, elle fait peur.
Oui, déjà.
D'accord.
On vous envoie la clé USB. Du coup, on vous souhaite quoi ? Un bon week-end, tout simplement ?
Bah voilà, le week-end commence. Je reprends le travail que mardi, donc...
Vous êtes en week-end, là, Stéphane ?
Voilà, c'est un grand week-end. Je travaille en Normandie, j'habite dans Finistère.
Ah, ça fait une petite trotte, quand même.
Voilà. Donc, je suis sur la route, là, je viens de m'arrêter pour...
Pour nous appeler, bah, c'est gentil. Bon, on vous retarde pas plus. Merci de votre gentillesse, Stéphane. Et puis, bon week-end, profitez-en bien.
Et merci, et bonjour à tous les auditeurs.
C'est le message est passé, à bientôt. Au revoir, Stéphane. Au revoir.
I understood loneliness before I knew what it was. Saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am a giant, standing up on my shoulders. Tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking borders underneath our feet.
Ce titre, Calvin Harris et Regan Bondman, c'était Giant sur France Bleu.
Une heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
se passe des choses étranges. Il y a des bruits bizarres depuis le début de cette émission. C'est normal, c'est une spéciale Halloween. Alors voici maintenant sur France Bleu la brigade d'investigation des endroits chelous et fantomatiques. Il s'agit d'un docu-réalité audio dans un podcast drôle et décalé, disponible à partir d'aujourd'hui sur l'application Magellan.
Drôle, décalé et effrayant, les endroits chelous et fantomatiques visités.
Bon, et là, on arrive au deuxième étage du manoir. C'est quoi ce truc-là ? Sors, vite ! Qu'est-ce que c'est ?
La porte ! Ouh, qu'est-ce que c'est? Là, on sent la tension dans la voix. Hein. La brigade d'investigation est composée de 3 personnes. C'est le chef de bande qui est avec nous, on le connaît bien. Bonjour David Lantin.
Bonjour Frédéric, bonjour Denis.
Bonjour. Comment David.
Ça va bien et vous? Remis de vos émotions?
Oui, ça y est, remis. On en a eu, hein. On en a eu des émotions.
Vous tournez où? Comment vous choisissez des endroits chelous, comme vous dites?
Ah bah alors ça tombe très bien, puisque j'ai écouté votre invité juste avant avec David Gallet sur la France des Lions, il y en a beaucoup, beaucoup, et on n'a que l'embarras du choix. Et quand on s'arrête sur une destination qui nous semble être un endroit propice à mener une investigation, une inspection, on se dit, allez, on y va, j'appelle ma brigade, on prend notre van, comme à la Scooby-Doo, vous vous souvenez de Scooby-Doo, hein?
Très bien.
Voilà, on joue Fred, Vera et Samy, en gros, et puis on s'en va, et on va essayer d'entrer en contact avec des entités, avec des fantômes, revisiter des légendes. Et je peux vous dire qu'on s'amuse beaucoup et on frissonne beaucoup aussi.
Et j'imagine que vous avez eu beaucoup de surprises sur le tournage, parce qu'il y a un scénario préétabli, ça va se passer comme ça, et puis certainement que ça ne s'est pas toujours passé comme vous pensiez.
Bah c'est ça qui est drôle, c'est que on a un départ où on se dit voilà, on s'en va par exemple à l'église de Vexin où on entend des sons, on entend des bruits étranges, on va essayer d'entrer en contact avec ces entités. Voilà la piste de départ. Mm-hmm. Et une fois sur place, bah rien ne se passe comme prévu évidemment. Donc on y va toujours en déconnant, en rigolant. Et quand on est arrivé, vous allez le vivre dans le podcast, il y a des choses parfois très cheloues qui nous arrivent vraiment.
Ouais,
vraiment.
Votre coéquipière s'appelle Violette Fantôme, c'est son vrai nom évidemment.
C'est Bonnette Fantôme, ouais, exactement. Ouais, ouais. Elle est spécialiste en paranormal, Denis, en fait, et elle est chasseuse de fantômes depuis pas mal d'années. Donc elle, si vous voulez, c'est notre caution, quoi. C'est-à-dire qu'on a besoin. Hein. Moi, je connais pas grand-chose en fantômes précisément, mais quand Bonnette sent une entité et voit ces appareils qu'elle nous emmène avec elle sur la brigade qui se déclenchent ou des diodes lumineuses qui s'agitent dans tous les sens, tout de suite, elle nous explique ce qui se passe. Et comme on est dans un podcast audio, évidemment, on est là pour décrypter, tout expliquer, parce que on n'a pas
l'image.
C'est aussi l'originalité, quoi.
Et du coup, on va terminer de présenter votre équipe. Vous avez un assistant également.
Oui, c'est Clément. Ça, c'est mon fidèle assistant qui, lui, c'est le gros blagueur. Hein. Mais dès qu'il peut se dérober, partir, et il est troussard comme pas deux, il essaie de partir. Et on est évidemment là pour le rattraper à chaque fois.
Et vous lui dites partez en hurlant. C'est très efficace, c'est très sonore.
Exactement, c'est ça. Exactement, c'est exactement ça. C'est vrai qu'il est troussard.
On a un extrait de la bande-annonce de la brigade d'investigation.
Il existe en France de nombreux lieux hantés.
Qu'est-ce que c'est ?
N'avez-vous vous-même jamais ressenti une présence invisible dans la même pièce que vous ?
Je crois que vous l'avez énervé.
N'avez-vous jamais vécu d'événements inexpliqués, venus d'ailleurs ?
C'est une chauve-souris, c'est une chauve-souris, paniquez pas, paniquez pas.
Que fallait-il d'autre qu'une brigade spécialisée pour se rendre dans ces lieux réputés les plus hantés ?
Ouh, la fin, elle fait peur aussi. Du coup, David Lantin, vous êtes 3 dans la brigade, mais vous avez invité des personnalités à chaque fois?
Oui, exactement. Là, pour l'instant, on a tourné 4 épisodes, hein, qui s'est décliné en 2 fois 4 épisodes de 20 minutes. Et pour parmi les épisodes qu'on a tournés, j'ai eu par exemple Amandine Bourgeois, qui est une amie à moi, qui est chanteuse, qui est venue, qui n'y croit pas. Alors ça, c'était plutôt sympa, parce qu'elle partait un petit peu à rebrousse-poil, elle croit pas à tout ça. Et finalement, bah, vous l'entendrez aussi, elle s'est fait une grosse flip pendant le tournage. Et le fait d'amener des invités avec nous, des guests, c'est aussi ça qui met le sel dans le podcast. C'est que eux s'attendent à rien et repartent en nous disant franchement merci, j'ai vécu un truc de dingue.
Une histoire, David Lantin, une petite histoire, un lieu parmi les histoires et les lieux visités.
Alors, il y en a une très forte, vraiment, toute l'équipe et toute la brigade s'en souvient. On est parti en Dordogne, on est allé à la maison forte de Reignac, qui est un lieu, mais alors incroyable, qui est incrusté dans la pierre, dans un mur. C'est incroyable quand on arrive là-bas sur place. Et là-bas, on a essayé d'entrer en contact avec celui qui s'appelait le Bouc à l'époque, qui est un cruel criminel. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable durant le tournage, où nous-mêmes on s'est dit c'est pas possible qu'il y ait une telle manifestation, à tel point qu'on est sorti de la maison tellement qu'on a eu peur, vraiment. Et je me dis que quand on entend ce genre de bruit, on y va parfois avec du second degré pour rire et pour s'amuser.
Ouais. Ouais.
Là, je vous promets que quand vous sortez et que vous entendez ce genre de bruit, vous dites waouh, quand même.
Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit j'arrête, j'ai trop peur?
Ben justement sur celle-ci, parce que en plus on tourne en pleine nuit, hein, on est vraiment, on demande à chaque fois, que ce soit dans les châteaux hantés ou dans les lieux où on se trouve, on demande à avoir l'accès, exactement. j'ai entendu Frédéric que t'aimerais bien faire la maison trop chaude, ça tombe bien, on l'a pas encore faite, j'aimerais bien t'en faire avec Denis.
Ah mais écoute, pourquoi pas.
Se passe un truc un peu bizarre, David Lantin. Votre voix, de temps en temps, elle part, elle revient.
Ben, c'est vrai.
C'est un peu chelou, c'est un peu fantomatique.
C'est un peu chelou, hein.
C'est de l'au-delà. Une dernière chose, David Lantin, donc du coup ça sort aujourd'hui, comment on fait là si on est en train d'écouter Nord en France, on se dit j'ai envie de me faire peur, on télécharge comment, on est sur internet?
Ouais, vous allez tout de suite sur l'application Magellan. Le contenu, évidemment, est réservé aux abonnés. Mais ce qui est sympa, c'est que la première semaine, elle est gratuite pour tous les utilisateurs. Donc là, vous allez sur votre smartphone, vous téléchargez Magellan et vous allez avoir la brigade d'inspection des endroits chelous et fantomatiques et vous allez vous faire peur avec nous.
Et 8 épisodes en tout, hein.
Exactement, ouais.
Bien, mais écoutez, bon Halloween. J'espère que vous fêtez ça dignement ce soir aussi.
Merci.
Oui, c'est clair.
David Lantin.
Et ne jouez pas trop à vous faire peur. Merci beaucoup. Bon Halloween. À bientôt.
Merci.
À bientôt. Au revoir. Une heure en France se referme. C'était un spécial Halloween. On peut le dire, Denis, on a joué à se faire peur, ça a marché.
Ouais, à commencer par ce petit moment de frayeur en Dordogne. Pourquoi vous me regardez?
Non, je pense que vous alliez dire, c'est ces bruits bizarres en studio, alors que c'était vous qui frappiez des coups sur la
table. Il s'est passé des choses étranges pendant que nous parlions des lieux maudits. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet.
C'est vrai que la Dordogne, ça a fait peur. Écoutez, c'était très sérieux en début d'émission. On a échangé avec une véritable sorcière luciférienne.
Je n'ai pas de pouvoir, je dispose d'un savoir. On a échangé avec une sorcière qui a les pieds sur terre et qui a une grosse période en ce moment. C'est une grosse période pour les sorcières.
Halloween, évidemment. La France des lieux maudits en livre. Ça, on doit se le procurer. Hein. 30 enquêtes palpitantes aux éditions L'Opportun avec David Gallet qui était avec nous.
Et on a... Ouais, pardon.
Non, allez-y. Et on a terminé avec aussi une autre brigade d'investigation.
Et demain, rien à voir, c'est Trip à la mode de Caen.
Le temps de se remettre, en fait.